Les informations, Lénaïque Monnier, Bernard Poiret.
Lénaïque, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
Recrudescence de morts sur les routes au mois de mars. Les autorités appellent à redoubler de prudence.
Troisième mois de hausse d'affilée et en ce week-end de Pâques et de départ en vacances, les contrôles seront renforcés. 60 000 membres des forces de l'ordre mobilisés toute la journée, c'est l'ultimatum 2 des Gilets jaunes. Le gouvernement se prépare à vivre un samedi compliqué et puis le printemps de Bourges s'achève ce soir. Gros plan dans ce journal sur les jeunes talents du festival.
Europe 1. Qui dit week-end de Pâques dit traditionnellement grosse affluence sur les routes.
D'autant que les Parisiens et les Toulousains débutent leurs vacances et que le week-end de Pâques est effectivement marqué souvent par des drames de la route. Des accidents qui sont de plus en plus nombreux. Pour le troisième mois d'affilée, le nombre de morts a augmenté. 250 personnes tuées le mois dernier. C'est 17% de plus qu'en mars 2018. Et pour inciter les automobilistes à la prudence, les contrôles vont se multiplier. Reportage dans les Alpes-Maritimes avec Frédéric Michel.
Et posté au péage de Saint-Isidore, l'un des points de passage les plus importants de la Côte d'Azur, les gendarmes ne vont pas attendre longtemps pour relever les premières infractions.
Une BMW noire, série 3, immatriculée FG.
Ah, reçu, merci.
Bonjour monsieur, vous avez été contrôlé à 121 km/h au lieu de 90.
Vitesse, alcoolémie, téléphone au volant, les contrôles ont été renforcés et annoncés. Le chef d'escadron Hervé Rouzier, commandant l'escadron de sécurité routière dans les Alpes-Maritimes.
Prends personne en traître, on est là pour faire baisser le nombre d'accidents. C'est un week-end accidentogène historiquement, parce que c'est un des premiers longs week-ends qui se passent sous les beaux jours. L'idée, c'est tolérance zéro.
Muriel est représentante, elle passe ses journées sur la route.
J'ai conscience des risques, je trouve que c'est bien. Ça rappelle aux gens les règles qu'ils ne respectent pas toujours.
Et même cette automobile en infraction approuve le renforcement des contrôles.
Les voir apparaître après le péage, ça surprend. Et là, ce qu'ils font comme action, c'est normal, avec tout le monde qu'il y a sur les routes, c'est compréhensible.
Et les deux roues seront aussi dans le viseur, dans les Alpes-Maritimes. Ils représentent plus de la moitié des morts sur la route. Nice, Frédéric Michel, Europe 1.
Et prenez vos précautions, la journée est classée orange au niveau national. Après une journée verte demain, ça va de nouveau se corser lundi, mais dans le sens des retours.
Les gilets jaunes, de nouveau dans la rue, 23e samedi consécutif.
La fin du grand débat et l'incendie de Notre-Dame de Paris n'ont pas changé la donne. L'ultimatum 2 aura bien lieu, ce qui fait craindre aux autorités un samedi noir et des violences. Débordements attendus à Toulouse, Montpellier, Bordeaux et tout particulièrement Paris. Comment l'exécutif envisage cette journée à risque ? Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Ceux qui cassent, ils n'ont pas été émus par Notre-Dame, explique un proche du président. À l'Élysée, on s'attend à ce que la mobilisation d'aujourd'hui soit forte. On l'a dans le viseur, tente de se rassurer un conseiller. Le dispositif policier sera fort, promet Matignon. Les services de renseignement ont noté les appels à la violence, notamment sur les réseaux sociaux. L'ultimatum lancé par certains gilets jaunes. Un proche d'Édouard Philippe dénonce l'alliance de l'ultra-gauche et des ultra-jaunes, selon la nouvelle formule utilisée par la police. Un ministre prévient... Les gilets jaunes seraient mal vus s'ils touchaient à un bâtiment public ou à des voitures. Ce serait sévèrement perçu par l'opinion. Mais toute la semaine, le gouvernement a appelé à une trêve politique. Beaucoup appréhendent néanmoins la séquence qui s'ouvre. On entre dans 10 jours compliqués entre ce samedi et le 1er mai, explique un conseiller qui soupire. Il nous faut apprendre à vivre avec ces gens-là.
Jean-Rémy Baudeau pour Europe 1. À Paris, un seul défilé a été autorisé. Il va s'étendre de la basilique de Saint-Denis jusqu'à Jussieu dans le 5e arrondissement. Le quartier des Champs-Élysées sera de nouveau bouclé. Même chose pour l'île de la Cité. Après l'incendie de Notre-Dame de Paris, 60 000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans toute la France. Quant à Emmanuel Macron, lui parlera jeudi, conférence de presse pour apporter les réponses au grand débat national.
Un marronnier qui tombe dans une cour d'école, des enfants grièvement blessés. On essaye de comprendre ce qu'il s'est exactement passé à Montauban. Voici quelques jours, dans un instant.
Il est 7h04 sur Europe 1.
6h-9h, Bernard Poiret sur Europe 1.
L'info continue avec Lénaïque Monnier et Bernard Poiret.
Lénaïque, revenons sur ce terrible accident dans une cour d'école à Montauban. On en sait un petit peu plus aujourd'hui suite à la chute de ce marronnier.
Conséquence dramatique pour l'un des enfants écrasés avant-hier. Ce marronnier qui a chuté dans la cour de son école primaire dans le Tarn-et-Garonne. Le petit garçon a dû être amputé d'une jambe. Le deuxième est touché au thorax. Il est désormais hors de danger. Selon le procureur, ce sont les racines de l'arbre qui sont en cause dans cet accident. À Montauban, le reportage de Benjamin Péter.
Le vent ne soufflait pas très fort, des rafales d'à peine 50 km/h d'après Météo France quand l'arbre s'est abattu sur les deux petits garçons. Comment expliquer alors que cet arbre de 12 mètres de haut, qui pesait près de 3 tonnes, se soit couché comme un domino? Le parquet de Montauban a fait appel à un expert forestier, il a fait des prélèvements, des carottages, et pour lui le tronc est manifestement en bonne santé, mais la chute de l'arbre a permis de mettre à jour ses racines qui ne se sont pas développées normalement. Laurent Cernic est le procureur de Montauban.
L'étude de cette partie racinaire montre que la base de l'arbre ne s'est pas développée normalement. L'expert a cette expression, il a poussé en chignonnage, c'est-à-dire que ses racines ne se sont pas suffisamment développées latéralement. Elles sont restées collées à l'arbre dans un effet de tourbillon, de sorte que ces racines exerçaient assez mal leur fonction d'ancrage au sol.
Et pour l'expert, il n'y avait aucun signe de cette faiblesse, rien n'aurait permis de le prévoir. Malgré tout, les auditions vont se poursuivre, notamment du personnel de la mairie en charge de son entretien. Le marronnier sera ensuite tronçonné pour permettre aux enfants d'effectuer leur rentrée dans une quinzaine de jours. Montauban, Benjamin Péter, Europe 1.
À l'étranger, nouveau vendredi de manifestation en Algérie. Pour la 9e fois, la population est descendue dans les rues à Alger, Oran, Constantine ou encore à Annaba. Le peuple réclame toujours le départ du pouvoir de l'ensemble des proches de Bouteflika. Et puis on l'apprend ce matin, un groupe armé a fait irruption pendant une fête au Mexique près de Veracruz. Bilan provisoire, 13 morts.
Le printemps de Bourges touche à sa fin. Et donc gros plan ce matin sur ce qu'on appelle les jeunes pousses forcément prometteuses.
Parce que 70% des artistes présents jouent leur premier album et il y a une scène découverte, la sélection des Inouïs qui permet à des inconnus de percer et pour certains même d'exploser. Et c'est aujourd'hui que seront révélés les gagnants. Diane Chenouda était justement à Bourges pour Europe 1.
Christine and the Queens, Eddie De Preto et avant eux Zebda ou la Mano Negra, tous ont été révélés par le printemps de Bourges grâce aux Inouïs. Ce concours de jeunes talents organisé par le festival partout en France pour repérer les pépites de demain. Rita Sarrego dirige le dispositif.
Parfois, ils ont juste fait 3 titres dans leur chambre et nous l'envoient. À partir de là où ils ont envoyé un titre et que ça nous a plu et qu'on les a mis sur scène, qu'on sent qu'il y a un potentiel, on fait un pari sur l'avenir.
Sur plus de 3000 candidats, une trentaine gagnent le droit de jouer à Bourges. Une chance pour ces jeunes artistes, comme en témoigne la chanteuse Flesh Love, sélectionnée l'an dernier.
Je trouve intéressant de jouer devant des professionnels parce que du coup, tu testes vraiment ton set. Tu sais, t'as 30 minutes pour convaincre. J'aime bien, moi je trouve ça intéressant.
Bourges, c'est là que tout a commencé aussi pour Radio Elvis, qui a remporté le prix du jury en 2015, Pierre le chanteur.
Ça nous a apporté une très bonne réputation de scène, parce que c'est le printemps de Bourges, avant tout ça c'est de la scène, et ça a créé un bel environnement avant de sortir notre premier album.
Tout s'enchaîne, après leur premier album, Radio Elvis remporte une victoire et tourne dans tous les festivals.
Et autre rendez-vous à Paris ce soir, c'est Europe 1 qui s'associe au concert de soutien et de mobilisation pour la rénovation de Notre-Dame de Paris diffusé sur France 2. Concert en direct des Invalides à 21h, c'est gratuit, mais avant cela, il faut s'inscrire sur le site émissionaupluriel-tv.com.
Je précise, émission au pluriel.
Et à 7h09, il est temps de s'intéresser au sport avec Lénaïque Monnier.
Lénaïque, parlons d'abord de la Ligue 1 de football. Lyon se relance, comme on dit, c'est le début de la convalescence.
Après la 33e journée de Ligue 1, Lyon a mis fin à une série de 3 défaites. Une victoire 2-1 hier face à Angers. Voilà qui fait du bien, surtout dans la perspective d'un avenir européen. Désormais, Saint-Etienne est à 6 points, Marseille à 8. Satisfaction et surtout soulagement pour le latéral droit, Léo Dubois.
Ouais, elle était attendue par tout le monde, donc c'est bien. On a tout simplement retrouvé un collectif et c'est ce qui fait la différence ce soir. De jouer au foot, il n'y a pas de problème. Après, voilà, c'est de jouer au foot ensemble et c'est ce qu'on a fait ce soir. Je pense qu'on a beaucoup parlé entre nous, on s'est beaucoup dit les choses. Maintenant, il fallait l'appliquer sur le terrain et c'est ce qu'on a fait. Il faut continuer sur cette fin de saison avec cet état d'esprit parce qu'il nous reste 5 matchs et qu'il faut qu'on finisse de la meilleure façon. Et si on joue comme ça, on y arrivera.
Léo Dubois avec Damien Tardieu dans l'autre match. Dijon a battu Rennes 3-2. Et puis en Ligue 2, Metz et Brest qui ont gagné contre le Gazélec et Orléans ne sont plus très loin de valider leur remontée en Ligue 1. On va retenir également ce score, la victoire 6-5 de Béziers à Valenciennes. On n'avait pas vu autant de buts en Ligue 2 depuis la saison 93-94.
Le tennis, une demi-finale assez corsée pour la France en Fed Cup. C'est ce week-end à Rouen.
La France affronte la Roumanie de Simona Halep, celle qui est numéro 2 mondiale et qui est tenante du titre à Roland-Garros. Pour l'affronter aujourd'hui, Julien Beneteau, le nouveau capitaine des Bleus, a choisi Kristina Mladenovic. Il nous dit pourquoi.
Là, voilà, en prenant beaucoup de paramètres en compte, si on a une petite chance de battre Alep le samedi, je pense que c'est Christina qui a un peu plus de chance que les autres. Donc, voilà, on essaie de préparer Christina au mieux et qu'elle soit capable de faire un grand match, comme elle a été capable de faire dans le passé, surtout en Fed Cup. Elle n'a vraiment rien à perdre. On a l'impression, voilà, l'équipe de Roumanie, on sait que Simona Alep porte un peu cette équipe. Et on a l'impression qu'elle n'a pas le droit à l'erreur, Simona Alep, dans cette équipe. Alors que nous, on a d'autres options et on a d'autres forces. Donc voilà, j'espère qu'on arrivera à retourner cette force pour nous.
Et Julien Beneteau répondait au micro Europe 1 de Corinne Boulou.
Merci beaucoup, c'était Lénaïque Meunier pour ce journal de 7h. Ce sera encore Lénaïque Meunier tout à l'heure pour le journal de 8h. À tout à l'heure Lénaïque.
À 7h12, c'est toute l'info du week-end sur Europe 1.
Et tout de suite, on retrouve bien sûr Bruno Dial du journal Paris Turf. Bruno, bonjour.
Bonjour Bernard.
Bruno, exceptionnellement, vous êtes en ligne avec nous par téléphone. Cette journée sur l'hippodrome d'Anguin devait normalement coïncider, Bruno, avec la rentrée dans le prix de l'Atlantique à 16h25 du grand champion trotteur Bold Eagle, dont on attendait une totale réhabilitation. Mais malheureusement, Bold Eagle a dû déclarer forfait. Expliquez-nous.
Énième rebondissement, Bernard, dans le roman Bold Eagle. On perd un peu son latin dans cette histoire. Beaucoup de choses ont été dites ces dernières semaines sur les errements du crack. Le fils de Ridley Cash a défrayé la chronique après sa modeste performance dans le Prix d'Amérique et son échec radical dans le critérium de vitesse début mars. Après cette déconvenue, le cheval a subi des examens. Il a tout d'abord été question de mettre un terme à sa carrière, puis d'attendre et de le courir en juillet avec son entraîneur au sulky. Bon, risque de changement de programme, après les résultats des analyses, le cheval a repris le travail. Enfin, l'entourage a souhaité courir aujourd'hui et débarquer son pilote Franck Vivard pour le remplacer par le Suédois Björn Goop. Cette dernière décision a de quoi choquer, drôle de façon de remercier Franck Vivard qu'il a appris par voie de presse. Détenteur à 39 ans de 5 victoires dans le Prix d'Amérique, le manchot y est pour beaucoup dans la réussite de son cheval. Franck a été très digne dans cette affaire, il n'a pas réagi et il a opté pour la discrétion. Il faudra néanmoins attendre encore, malheureusement, pour revoir Bold Eagle et son nouveau partenaire, car de nouvelles analyses effectuées hier ont révélé des taux très élevés de globules blancs. Affaire à suivre.
Affaire à suivre, effectivement. En tout cas, Bold Eagle est forfait cet après-midi puisqu'il est malade. On parle du quintet. Le quintet est prévu à 15h15. Bruno, quelles sont vos deux bases?
Fraïja Dupont, numéro 5 en progrès, détient une première chance. Flèche Bourbon, le 6, peut lui donner du fil à retordre.
Donc, le 5 et le 6, selon Bruno Dial, dans ce quintet d'Anguin cet après-midi. Merci beaucoup, Bruno. Je précise qu'il y a 13 pouliches qui sont partantes dans ce quintet d'Anguin.
Il est 7h14.
Valérie Darmon, le week-end prolongé va se présenter de manière presque idéale côté météo et presque chaud et aussi.
Oui, avec 27 cet après-midi à Mantes-la-Jolie, près de Paris, 26 à Rambouillet, 25 à Vierzon et à Mérignac, 24 à Dax et à Marennes, 23 à Narbonne, 20 degrés à Saint-Malo, 19 à Dinard et 17 à Barcelonnette par exemple ou encore à Cherbourg, tout cela sous un ciel extrêmement ensoleillé sur la partie nord, sur la partie est, sur le sud. Et c'est vrai qu'on a une petite bulle, là, cet après-midi seulement, de risque d'averse et d'orage entre les Charentes, entre l'estuaire de la Gironde et le Lyonnais, en passant par le Massif central.
Est-ce que vous pouvez compléter avec un ou deux tweets, Justine?
Bien sûr. Vincent nous dit « Je suis parti pour vous décrocher la lune, déjà 9 degrés et un week-end sur son tracteur, matin et soir, pour protéger ses cultures en conditions optimales. » Donc on a une photo avec son tracteur, avec beaucoup de touches. Ça a l'air d'être très compliqué, je vous l'avoue, Bernard.
Alors, le plus que vous avez par rapport à moi, c'est que moi, j'ai les textes avec les SMS. Vous, en plus, vous avez les images, vous avez des photos. Peut-être un autre tweet ou pas?
Un autre tweet, Sophie, écoutez, qui nous dit « Bonne journée, excellente fête de Pâques, hein, bien évidemment.
Ah, oui.
À 11 degrés sur Reuilly, avec des averses et quelques pluies normalement. »
Très bonne fête de Pâques à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette matinale d'info, les grands titres de l'actu dans deux minutes. Et puis, le monde vu par François Clémenceau et Régis Le Sommier, l'homme du JDD se préoccupe de la moralité des ventes d'armes. Celui de Paris Match s'intéresse sur 32 pages cette semaine à Notre-Dame de Paris, incendiée et à reconstruire.
Très bon début de journée avec Europe 1, il est 7h15.
6h, 9h, toute l'info du week-end avec Bernard Poirette sur Europe 1.